invités, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de l'année civile qui reçoit ce soir Olivier pour une carte blanche sur le thème de l'insoumission, donc au programme des artistes qui ont refusé de substituer leur musique à ce que l'on attendait d'eux, préférant livrer des œuvres plutôt singulières. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste. Donc du rock garage à la cold wave, chacun leur manière, dans la programmation, dans la carte blanche que tu vas avoir ce soir à Tour de Piste, chacun leur manière, on navigue à contre-courant des tendances du moment jusqu'à donner le ton d'ailleurs pour certains, avec beaucoup de guitare électrique, une playlist plutôt rétrospective qui commence par Joy Division. À partir de quel âge et à quel moment toi t'as eu envie, t'as senti ce mouvement de révolte avec la guitare électrique?
Alors je vais pas être super original, mais moi, la révolte dans la musique, je l'ai connue en entrant au lycée. En général, c'est là qu'on trouve plein de choses. Et moi, j'ai connu ces groupes-là. J'ai commencé par Cure, vraiment, à écouter de la musique avec Cure, qui a été vraiment une petite révolution pour moi. Puis après, ça m'a amené à écouter d'autres groupes. Et je me suis dit, tiens, en ces temps d'insurrection et d'insoumission avec les Gilets jaunes, etc., et si on essayait de trouver une bande originale à la colère, une bande comme dans un film, finalement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai retracé tout ce que j'aimais et je me suis rendu compte que plein d'artistes dont je suis fan, par leur musique, par leur savoir-faire, par leur état d'être, ont été des insoumis et ont mené parfois même des insurrections. Et puis, comme bien souvent, la colère, elle prend sa source dans le désœuvrement. Et c'est un petit peu là, Joy Division, le pourquoi d'une Joy Division, c'est qu'on est en Manchester, fin des années 70, 77, un groupe qui va exister 4 ans, qui va être qui est à l'origine de quelques morceaux et qui va influencer peut-être énormément de groupes. Et on se rend compte que d'abord, c'est un groupe qui n'a jamais eu un succès commercial, quasiment pas. Et pourtant, c'est un groupe culte, un groupe légendaire. Et je me suis dit, quoi de mieux pour lancer un thème sur l'insoumission que le désordre qui s'appelle Disorder chez Joy Division. We'll be right back.
for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, needs a feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Économique, Ian Curtis chante avec sa voix caverneuse et donc donne l'origine vraiment de la Cold Wave. La Cold Wave va naître quasiment avec, avec nos amis de Joy Division. Du coup, il a écrit des textes qui sont magnifiques. Alors, si vous parlez anglais, vous pouvez traduire, mais il y a des traductions qui existent des textes de Ian Curtis qui sont très très beaux, où il exprime le mal de vivre, la crise économique, mais ressentie par les sentiments. Donc, c'est assez formidable à lire d'abord. Et alors c'est rigolo parce qu'on a toujours cru que Ian Curtis, qui est mort pendu juste avant le départ pour une grande tournée américaine qui devait un peu consacrer Joy Division, on a toujours cru qu'il était malheureux parce qu'il avait le mal de vivre un peu à la Baudelaire. Alors qu'en fait il était sans doute un peu baudelairien, mais il était aussi, il avait des amours dissolus, il était marié très jeune, et puis il avait une maîtresse et ça le mettait dans un état
de culpabilité sans doute.
Sans doute de culpabilité. Et c'est pour ça qu'il s'est... Enfin, c'est pour ça. C'est surtout pour ça. Et c'est le très beau film qui s'appelle Control, qui raconte la vie de Ian Curtis et de Joy Division. Mais met très bien l'accent là-dessus. C'est qu'il était... C'était un magnifique poète. Mais c'est surtout quelqu'un qui avait du mal à vivre cette relation extra-conjugale. Il se pend le matin du départ de la tournée pour les États-Unis, où vraiment Joy Division devait exploser au grand jour. Donc moi, ça me fait toujours... Enfin, le film est très très beau. Il s'appelle Control, si vous avez l'occasion de le voir. La photographie est magnifique. C'est tout en noir et blanc. Ça dure 1h20, c'est magnifique. Et donc du coup, on parlait de Cold Waves, et puis un des groupes qui a été influencé par Joy Division, c'est Cure. Alors Cure, ce qui m'épate chez Cure, c'est la polymorphie du groupe. C'est-à-dire que Cure est né avec un album de rock, et puis s'est mis à faire de la Cold Wave, et là ils ont fait deux albums assez incroyables, que sont 17 Seconds et Pornography. Et ils se sont réinventés vraiment toute leur carrière. C'est-à-dire que quand ils ont fait la Cold Wave, c'était vraiment de la pure Cold Wave. Et puis, c'est arrivé les années 80, le disco, ils se sont mis à faire de la pop avec des albums super réussis comme Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de Head on the Door, qui sont des super albums pop hein, qu'on entend à la radio. C'est rare qu'on entende Joy Division dans les médias de masse. Par contre, les Cure, on l'entend souvent, Just Like Heaven, etc. Et donc moi j'ai choisi un morceau qui est au confluent de tout ça. C'est, je trouve qu'il fusionne bien cette influence pop et en même temps Cold Wave qu'ils avaient, qui s'appelle Disintegration. Et un morceau que je trouve magnifique parce que c'est... j'ai un trou sur le nom du morceau, Laurent.
C'est Pictures of You.
Pictures of You, c'est un des plus beaux morceaux de Cure. Par la musique et puis par l'incarnation de Robert Smith sur le dernier couplet. Si vous tendez un peu l'oreille vraiment sur la fin de la musique, c'est magnifique ce qu'il dit. Donc on fera quelques petites traductions à la fin. Mais c'est d'une beauté incroyable. Et puis surtout dans l'incarnation de ce qu'il chante, c'est vraiment absolument fabuleux. Et moi, ça me hérisse les poils à chaque fois que je l'entends.
Slip away quietly.
C'était The Cure, Pictures of You, Disintegration, le choix de mon invité de ce soir, Olivier, pour l'insurrection dans la musique. On va revenir un petit peu sur cet album et sur la carrière du groupe. Eux sont du sud de l'Angleterre et donc du nord, contrairement à Joy Division. Une carrière d'une extrême longévité. Effectivement, le secret d'un groupe pour durer aussi longtemps, c'est de renouveler sans cesse son répertoire.
Ah, je crois, et puis avec Cure, c'est assez incroyable. Ils annoncent un album en 2019. Donc, les derniers albums de Cure sont un peu moins bons que tous les autres d'avant, que Disintegration. Déjà, ils avaient amorcé un virage avec Wish qui était un peu moins intéressant. Mais il en reste pas moins que c'est quand même un groupe qui a une quarantaine d'années, qui a plus de 10 albums au compteur et qui à chaque fois arrive à assimiler son époque et à refaire du nouveau, même avec des choses usées. La voix de Robert Smith, elle est intemporelle. Leurs riffs de guitare sont incroyables. Et en même temps, c'est des purs joyaux pop à écouter, même si on n'aime pas trop la pop. Enfin, voilà, en termes de pop culture, c'est Cure, c'est la grande classe.
Ouais, il y a pop et pop. Hein. Alors, on va revenir un peu du coup, forcément, sur Joy Division, qui se forme pendant la période punk, à un concert des Sex Pistols.
Ah,
je crois.
Ça c'est rigolo.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de musique, il y a très peu de spectateurs à l'explosion punk. D'abord à New York, parce que ça arrive plutôt aux États-Unis. Enfin, ça arrive en Angleterre après. Mais la phase de gestation et de maturation se fait à la scène punk aux États-Unis. Mais ils montent tous un groupe. Donc c'est ça. C'est des petits microcosmes au départ, comme Joy Division, qui a pas non plus eu un succès commercial dément et qui a une influence incassable, quoi. Enfin,
c'est ça. Le nombre de groupes qui se réclament de Joy Division, c'est assez incroyable. Ouais, ouais. Et comme tu le disais, c'est intéressant. Ils se sont rencontrés un concert des Sex Pistols, tout comme les Buzzcocks. Ils étaient potes, en fait. Et c'est des groupes qui seront aujourd'hui légendaires. Et ils se sont rencontrés tout simplement un petit concert des Sex Pistols dans la fin des années 80. Enfin, fin des années 70 plutôt. Non, c'est intéressant. C'est intéressant.
On parlera justement dans cette spéciale souci, forcément une spéciale rock indépendant, puisqu'on parlait d'insoumission. On reparlera de tout ça. L'influence de groupes qui finalement n'ont pas été si connus que ça de leur vivant, mais l'influence sur les générations à venir, puisqu'on a. Tu citais les Buzzcocks tout à l'heure, on va les retrouver dans d'autres. Dans d'autres répertoires, d'autres musiciens comme Rage Against the Machine. Tout à l'heure, on va aller à Bordeaux, ta ville natale.
Ah oui.
Hein, avec un groupe qui s'appelle.
Ah, qui s'appelle évidemment Noir Désir. Alors Noir Désir, c'est un groupe de région qui réussit. C'est quand même pas rien déjà. Et en plus, Noir Désir a eu un succès assez incroyable, puisque d'un petit groupe régional où déjà Bertrand Cantat a attiré les foules, ils sont devenus le groupe de rock français par excellence. Hein. Donc une poésie, quelque chose qui marque vraiment un petit peu, comme Robert Smith, Bertrand Cantat, c'est la manière d'écrire. C'est des grands poètes tous les deux, et puis soutenus dans le cadre de Noir Désir par des guitares abrasives à souhait. Et le morceau de Noir Désir que j'ai choisi, je trouve, résonne particulièrement bien avec l'actualité, et notamment avec cette atmosphère d'insurrection portée par les Gilets jaunes, qui nous rappelle que d'ailleurs, il y a toujours des raisons de se révolter, bonnes ou mauvaises à la base, mais qui donnent toujours envie de se battre. Et je trouve qu'on trouve toujours dans la musique cette bande-son qui peut nous porter. Et donc moi j'ai choisi un morceau qui s'appelle, je perds tous mes...
C'est Oudou, hein. Je t'ai pas dit.
Ah ouais, c'est ça, c'est Oudou, suivi du Ciment sous les plaines. Je vais juste vous lire un des couplets que je trouve le plus beau dans Du ciment sous les plaines, écrit par Bertrand Cantat, évidemment. Je vais vous le lire et puis on lance la musique derrière, parce que je trouve que c'est plein de poésie et en même temps plein de colère. Qui a miné la base, qui a fait sauter le pont, qui avait disposé du ciment sous les plaines, qui savait au début qu'il y aurait une fin, qui êtes-vous, messieurs, mesdames, pour me parler comme ça?
People say don't go over there if you don't want to pay for that.
Stiff up from the hoodoo! Stiff up from the hoodoo!
Now listen to the big whistle sound. Listen to the big whistle sound. Listen to the big whistle if you don't want to. If you don't want to. Qui a fait sauter le pont, qui avait disposé du ciment sous les plaines, qui savait au début qu'il y aurait une fin, qui aime vous messieurs dames pour me parler comme ça. Ah
gelée encore du givre au bord des lèvres. Oh, mais où sont les mots secrets? C'est des bornes d'hôpital, c'est des couloirs en vrac, du néon malicieux, de la douche en lac. Hey!
Connu Noir Désir, le groupe bordelais En Route pour la Joie, extrait du Ciment sous les plaines, un groupe qui lui aussi naviguait à contre-courant des tendances jusqu'à devenir le groupe dans les années 90. Et c'est pas les motifs de la révolte qui sont importants, c'est la révolte elle-même, Olivier.
C'est vrai, et c'est rigolo parce que cet album de Noir Désir qui succède au premier, le premier qui a été disque d'or, veuillez rendre l'âme. Et donc ils veulent sorti le fameux Sombrero de la mer qu'ils ont plus jamais joué sur scène d'ailleurs.
Oui, à mon avis, qu'ils supportaient plus au bout d'un moment.
Ah, c'est ça. Je crois qu'ils ont tellement entendu la radio qu'ils voulaient plus jouer sur scène. Et alors du coup, c'est rigolo quand ils ont sorti ce deuxième album, ils ont voulu faire un truc complètement à l'opposé avec des grosses guitares. Ils ont été dézingués par les critiques des Un Rock à l'époque. Et c'est vrai que l'album il est assez étrange parce que les quatre premiers morceaux sont vraiment excellents et après ils se perdent un petit peu, ils se perdent sans doute un petit peu parce que forcément c'est le succès, les amphétamines pour Kanta qui sur la tournée qui suit presque perd sa voix et doit presque arrêter la musique finalement. Quelques années après, ils vont sortir leur Nevermind à eux, le fameux album Tostaki, qui est resté pour tout le monde comme l'album qu'ils a fait rentrer dans la légende. Et c'est rigolo parce que quand est sorti Tostaki, les Inrecuptibles ont dit que Kanta c'était Jim Morrison mais en deux fois moins bien et que musicalement ça valait pas le coup.
Oui, ils sont durs la presse. Hein.
Ah, ils sont durs et ça a été l'album le plus vendu de Noir Désir Tostaki, comme quoi parfois les critiques se trompent et tant mieux d'ailleurs. Et c'est un vrai succès populaire. Et le petit clin d'œil, c'est la pochette de Tostaki où tout le groupe tourne le dos comme s'il tournait le dos aux critiques, mais aussi à leur passé. Donc, une belle carrière quand même de Noir Désir, on se rappelle, même si la fin pour Kanta est moins belle, mais en même temps, ça le fait aussi peut-être un peu rentrer dans la légende. Mais une carrière exceptionnelle, des albums quasi tous parfaits, avec toujours la poésie, puis les guitares en feu, quoi.
Et puis cette influence du Gun Club, plutôt, du Gun Club ou des Stooges. Ouais. Un rock assez lourd, là encore très abrasif. Pour la suite de l'histoire, Noir Désir effectivement portait bien son nom. On essaiera de dissocier l'œuvre et l'homme, d'autant que Noir Désir c'était pas que Bertrand Cantat, c'était aussi Denis Barthe et Serge Tessoguet qui a fait une belle carrière après.
Et qui continue, hein, Serge Tessoguet, il travaille avec Kazé.
Entre autres avec Ralal Jaramani, ouais. Le joueur de Oud, je ne sais pas où ils en sont maintenant. Enfin voilà, ils avaient fait un petit. Je me permets de rajouter un petit truc. Il y avait eu un 7 titres. Où veux-tu que je regarde? Je crois qu'il était sorti avant.
C'est le premier EP.
Oui, le premier EP. Donc toi qui es de Bordeaux, je sais pas si tu as eu la chance de les voir avant qu'ils aient du succès.
Alors moi, je les ai vus plusieurs fois, mais dont une fois sur la tournée Tostaki. Et ce morceau-là terminé, enfin celui qu'on vient d'écouter, En route vers la joie, terminait leur concert. Et un peu comme Cure d'ailleurs, ils retravaillaient beaucoup leurs morceaux sur scène d'une tournée à l'autre. Et En route vers la joie, enfin Du ciment sous les plaines, En route vers la joie, durait quasiment un quart d'heure selon les soirs, où ils s'octroyaient vraiment un moment de hypnotique avec le public. Et Kanta et Serge Tessoga à la guitare menaient ça d'une main de maître avec Nini à la batterie. Et enfin, pour avoir vu vraiment la tournée Tostaki, c'était incroyable. Le public comme le groupe était en feu sur scène, c'était un réel bonheur.
Bon, on va aller à Angers maintenant.
Et oui, pas très loin.
Après Bordeaux, Angers, avec un groupe un peu plus qui arrive un peu avant Noir Désir, je crois.
Ils sont sensiblement de la même
sensiblement
époque.
Sensiblement de la même époque.
Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a longtemps dit que Noir Désir avait complètement écrasé le rock français. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Je pense que Noir Désir, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, c'est le groupe de rock qui a réussi et qui a connu, qui a connu un vrai succès commercial. Par contre, il y a eu énormément de groupes à cette époque, notamment les fameux Tugs, qui ont fait vraiment. Alors, du coup, c'était presque l'opposé à De Noir Désir, c'est-à-dire que le chant était très loin derrière, les guitares très anglo-saxonnes, et pourtant, je trouve que c'est aussi un des meilleurs groupes de la génération avec Noir Désir. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que l'album qu'on va écouter, donc c'est As Happy As Possible, et puis le morceau, de l'album, c'est As Happy As, où là, pareil, on est en pleine crise économique en France, c'est austère, on est en 93, ils feront une tournée qui va quasiment durer un an et demi, et puis entre le moment où sort l'album, où c'est la crise financière en France, on s'éclate pas, hein, ils sortent un album qui s'appelle As Happy As Possible, c'est quand même un beau pied de nez à l'actualité. We'll be right back.
c'était le rock noisy des Angevins, les Tugs, extrait de As Happy As Possible, une certaine idée du rock français dans les années 90, avec un chanteur moins charismatique que Bertrand Cantat, certes, mais c'était vraiment pas mal.
C'était vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé.
Et on va se diriger aux États-Unis avec un groupe aussi qui a eu un énorme succès commercial finalement.
Alors, du coup, c'est le grand écart avec les Tugs. Là, du coup, un chanteur hyper charismatique. Et puis, l'album sort en 92, je crois, de Rage Against the Machine, le tout premier, 92. Qui a été une vraie bombe. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque,
Je me rappelle très bien.
Il y avait vraiment deux écoles. Les mecs qui écoutaient du rock d'un côté, et puis ceux qui écoutaient du rap de l'autre. Alors, même si ça paraît aujourd'hui assez binaire de dire ça, c'est vrai qu'à l'époque, les rockeux écoutaient quasiment pas de rap. Et puis.
C'est des gardes-chapelle, hein. Enfin, quand même, je veux dire.
Ah, mais carrément, ouais. Et un jour arrive le groupe de Max de la Rocca qui réconcilie fusion, métal et puis rap. Enfin, Max de la Rocca sur scène, c'est incroyable. Et puis la guitare de Tom Morello derrière qui joue d'ailleurs un style de guitare que personne n'a jamais entendu. Il fait des bruits avec sa guitare et il est capable d'imiter des scratchs. Donc vraiment un groupe pour le coup qui révolutionne la musique d'une manière générale, qui fait un album, un tout premier album, mais alors, vraiment atomique. Et qui du coup... On va écouter un morceau qui s'appelle Bullet in Your Head. Et si vous écoutez bien le morceau, du début à la fin, on a l'impression de suivre la trajectoire de la balle. Bullet in Your Head.
We'll be right back.
Et c'était les débuts de la fusion, fin des années 80, début des années 90, qui ont donc réconcilié le heavy metal, le rap et le rock sans jamais être caricatural, Rage Against the Machine, un concentré de tout ce que le rock contestataire pouvait avoir, mais en un seul groupe, c'était Rage Against the Machine.
Alors quand on parle d'insurrection, pour le coup, là, on y est vraiment de la pochette de l'album au titre des chansons, c'est même les paroles, si vous avez l'occasion de les lire. Moi, j'étais tellement fan à l'époque du CD, et même des autres albums de Rage qui sont vraiment très très bien aussi, que je connaissais tous les yeah, les fuck off de Zach de la Roquette sur tous les morceaux, c'était assez impressionnant. Et puis Bullet in Your Head, une petite dédicace à tous les gilets jaunes qui ont pris des coups de flashball dans la tête lors de leur manif, et puis un big up à eux quand même, parce qu'ils réveillent un peu le pays aussi.
C'est pas les raisons de la révolte, ça dépasse, c'est une contestation, un mouvement de grogne qui dépasse la simple augmentation de l'essence.
Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est un peu révolté, enfin, je pense qu'il faut toujours d'abord être un peu insoumis dans la vie et se dire que l'ordre établi, ben, on peut pas que l'accepter, surtout quand on voit tout ce qui se dégrade, aujourd'hui entre le climat. On vit une époque quand même, c'est un beau bordel, hein. Donc c'est bien qu'il y ait des gens pour se révolter, et il faut toujours, enfin, on trouvera, je crois, toujours des artistes pour faire la BO de tout ça, et tant mieux.
Et il faut rééquilibrer justement les relations de force. C'était peut-être un peu déséquilibré entre les industriels, la grande économie. On va pas se lancer dans ce débat-là. et puis le fond de la population. Donc oui, ça fait toujours du bien de foutre un peu le bordel.
Il faut. Et un autre groupe qui foutait le bordel, alors là on revient dans les années 90 aussi, c'est Jesus Lizard. Alors Jesus Lizard, c'est pareil, c'est un peu comme Joy Division, c'est le groupe qui a peut-être influencé le plus de groupes américains, dont notamment Nirvana, qui était complètement fan de ce groupe-là, et des Melvins. Donc ces deux groupes, les Melvins et Jesus Lizard, qui ont eu quasiment pas de succès qui ont pas eu un gros succès commercial, faut bien se l'avouer, et pourtant le nombre de groupes qui se réclament encore aujourd'hui influencés par les Melvins, par Jesus Lizard. Alors moi j'ai eu l'occasion de voir Jesus Lizard une fois dans ma vie. Donc il y avait un chanteur assez charismatique qui s'appelait David Yo, qui chantait jamais de là où il fallait, mais par contre il était toujours impeccable sur scène. C'est un mec hyper timide, alors, ce qu'on pouvait pas croire sur scène, parce que sur scène il était toujours déguisé, il se faisait des choses bizarres, il se baladait dans le public, il embrassait toutes les filles qu'il pouvait, et en même temps il était toujours au top sur la chanson. C'était assez incroyable. C'est un mec hyper timide, donc il est arrivé en début de carrière de s'enfiler une bouteille de whisky juste avant de monter sur scène, et pourtant il tenait le set quasiment du début à la fin. C'était assez incroyable. Moi je l'ai vu à Bordeaux il y a quelques années, et c'était la grande classe. Ils sont passés à Paris l'année dernière pour leur dernier concert. C'était vraiment apparemment aussi un truc de feu. Alors ce qui est intéressant avec Jesus Lizard, c'est que vous allez voir ces grosses basses en avant, un guitariste de jazz qui rejoint le groupe et qui joue comme un jazzman peut jouer du rock. Donc c'est assez rigolo. Donc écoutez bien les guitares, ça vaut le coup. Et puis basse batterie, c'est assez impressionnant. Et puis la voix de David Yo est caverneuse et atypique à souhait.
Cut his arms to garnish. Place laid out for banquets. And he had taken.
C'était The Jesus Lizard School of German.
Petite anecdote, quand l'album Nevermind de Nirvana est sorti, l'album qui a fait exploser Nirvana, ils sont partis en tournée avec Jesus Lizard, donc c'était en septembre 91 je crois, et à l'époque 50 000 exemplaires de Nevermind avaient été imprimés. Et Jesus Lizard avouera que lors de cette tournée-là, Nirvana, qui jouait en première partie, il sentait qu'il se passait un truc tous les soirs. Et c'est rigolo parce que 4 mois après, les 50 000 exemplaires qui étaient sortis en septembre 91, il s'en écoulait plus de 300 000 par semaine début 92 de Nevermind. C'est assez incroyable et ce qui peut expliquer aussi la trajectoire funeste de Nirvana et de Kurt Cobain.
Voilà, c'est des poètes maudits aussi au départ, donc avec des fragilités et le succès. Et puis peut-être que la pression du marché du disque et des majors qui demandent aussi à leurs artistes de modifier... modifier leur musique pour en faire un produit immédiatement consommable, quoi. Et je pense qu'il s'est perdu aussi un peu en chemin, Kurt Cobain.
Ouais, Kurt Cobain disait, nous, on est un groupe de bar, quoi. T'imagines un groupe de bar qui vend 300 000 albums par semaine, ça marche plus, quoi.
On va aller en Californie maintenant.
Ouais, on reste aux États-Unis.
Côte ouest américaine.
Alors par contre, on a eu des retours comme quoi c'est une émission de vieux parce qu'il y avait que des vieux morceaux, mais c'est pas vrai. si vous vous rappelez l'excellent festival Rush qui s'est tenu au mois d'août dernier, c'est août ou
c'est septembre, juin, c'est début juin. Rush.
Début juin, tu vois. Mais il était tellement bien que j'ai l'impression que c'était en août. Et il y a eu la tête d'affiche, c'était Ty Segall, un petit mec qui a 30 ans et qui a déjà plus de 15 albums au compteur. C'est assez incroyable, c'est un génie. C'est un génie du rock garage. Alors il se trouve qu'il redonne ses lettres de noblesse au rock garage peut être un peu décrié parce que souvent on dit qu'il est assez simple, pas de basse, une guitare, une batterie qui sonne un peu crade. Bah, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Et puis Ty Segall le fait tellement bien que du coup, même si on n'aime pas, on finit par aimer le rock garage. Alors c'est un morceau, j'ai choisi exprès ce morceau-là parce qu'il fait des vrais morceaux de rock garage. Il a enregistré avec Steve Albini des morceaux assez intéressants de manière rock garage, mais celui-là, il fait penser à un truc beaucoup plus travaillé. C'est toujours le même petit garçon qui a 30 ans a sorti 15 albums. Et je trouve que celui-là, il est assez classe parce qu'il est limite entre le rock garage et les Beatles. Je trouve que c'est le confluent parfait. Donc écoutez-le, vous me direz après. Puis c'est surtout l'album. Alors c'est du coup, à l'époque, c'était le dernier album en juin sorti. Depuis, il en a sorti un nouveau qui est encore mieux. Il est très prolifique. Qui est vachement bien, mais qui retourne un peu plus aux racines du blues. Donc c'est intéressant. Mais celui-là, moi, j'ai passé un super moment. Il faisait super beau. On était au bord de la scène, on buvait une bière. Et en plus, on avait Ty Segall dans les oreilles. C'était la grande classe. Vive Rush!
She knows just how to come.
plus qu'un simple revivaliste et plus qu'un musicien garage, c'était l'américain Ty Segall. Funny Dog est extrait de Freedom Goblin pour cette spéciale rock et insurrection en pleine période de grogne en ce moment en France, avec Olivier comme invité. Je te remercie Olivier, l'émission touche à sa fin, il reste encore un titre de John Zorn, le temps pour moi de faire quelques annonces. Samedi soir, donc on sera le 21 décembre à 20h, la soirée, une soirée organisée par Venus in Fuzz, encore eux. Christmas Escobar Party, ce sera chez Chris. Dans quelques minutes, à 21h précise, vous avez rendez-vous avec Vous avez dit classique. L'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité et pour votre écoute et de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier, évidemment. Merci à toi, Olivier, pour ta participation.
Ben merci Laurent, merci Laurent de nous avoir, de m'avoir invité. Et puis c'était un moment bien agréable de partager ces moments, ce petit moment d'insoumission tous ensemble. Et puis pour le coup, un dernier rebelle. Alors lui, il est jazzman à la base, il est américain et il a fait des études de musique. Et puis quand il est sorti de son école de musique, il a voulu faire du jazz d'une autre manière. Et puis très vite, tout le monde lui a tourné le dos en lui disant que le jazz était cadré et qu'on pouvait pas non plus trop déconner. Hein, on a des ancêtres comme Coltrane. Et pourtant, l'âme de Coltrane, c'est plutôt justement quelque chose de très ouvert. Et John Zorn ne trouvant pas son compte avec les musiciens de jazz, il est allé voir tout simplement d'autres musiciens, le chanteur de Faith No More, le batteur de Napalm Death. Ils se sont dit, les gars, il leur a dit, venez, on va faire un truc ensemble, on va faire du bruit. Et alors c'est rigolo parce que on dit souvent que le rock, quand c'est un peu joué fort, c'est un peu du bruit. Pour le coup, Zorn, il dit, moi, je vais faire de la musique en faisant du bruit. Mais la musique, c'est en fait, c'est du bruit organisé. Et donc John Zorn sort plein d'albums avec Joe Barton, et puis avec plein de musiciens rock. Et il les fait jouer d'une autre manière. Alors, en général, les batteurs, par exemple, de metal, c'est des grands batteurs. Ben là, vous allez voir encore un excellent batteur qui joue du jazz et qui, en beau milieu du morceau, commence à faire du bruit. Donc écoutez bien le morceau. Ça commence comme une musique de James Bond. Et puis parfois avec des incursions de folie dedans. Ça s'appelle John Zorn.
Alors on se quitte là-dessus. Encore merci Olivier. À dans 15 jours, salut.